Bien sûr, toutes les causes dans une société sont bonnes et chacun y trouve sa cause pour y travailler. Mais il y a une affaire qui nous touche tous collectivement, si ce n'est pas aujourd'hui, c'est éventuellement. C'est le traitement que subissent des enfants et les débordements qu'il y a du côté de la direction de la protection de la jeunesse. Et ce n'est pas de la faute de la protection de la jeunesse. Imaginez-vous qu'il n'y a pas moins de 540 enfants qui présentement sont sur une liste d'attente suite à des dénonciations et des signalements. Ça veut dire que des enfants qui souffrent, qui sont maltraités, qui sont dans le besoin et la misère, et on n'a pas encore eu le temps de les évaluer. C'est une situation inacceptable. On va parler, si vous le voulez bien, à Jocelyne Boudreau, qui est attachée de presse au CIUS de Montréal. Et ça, je ne parle que de Montréal avec 540 enfants. Imaginez les autres régions où les ressources sont peut-être moins grandes. Elle est une ancienne intervenante également à la DPJ. Elle va nous raconter cette situation-là. Jocelyne Boudreau, bonjour.
Bonjour, M. Mongrain.
Dites-moi, à plusieurs niveaux, donc, la pandémie a ses effets pervers, mais il y a un point très sensible, c'est celui de la protection de la jeunesse, de la DPJ. Il y a une hausse importante des signalements chez vous.
Oh, vous avez tout à fait raison. Et c'est ce qu'on craignait d'ailleurs, que la pandémie avec le confinement révèle ou provoque évidemment des situations de négligence ou autres abus chez les enfants. Et oui, à date du 9 juillet, on avait, si ma mémoire est bonne, 540 enfants en attente d'évaluation.
Au CIUS de Montréal, seulement?
Oui, juste pour l'île de Montréal.
Écoutez,
c'est énorme.
Non seulement c'est énorme, mais ça s'ajoute à l'engorgement, si on peut dire, ou au débordement qui existe déjà à la DPJ. Parce que en situation dite normale, ben les anormalités en DPJ engorge beaucoup le système. Là. Vous n'êtes pas capable de répondre à tout, en tout cas difficilement, malgré tous les efforts.
Oui, mais par contre, je mettrais une petite bémol, M. Mongrain.
Oui.
Au niveau de l'étape d'évaluation, nous, autrefois, avant le confinement, avant la pandémie, il n'y avait pas ou peu de listes d'attente.
D'accord. Mais il y avait
c'est
beaucoup
vraiment,
de cas.
Là, il y avait beaucoup de cas, effectivement. Les signalements n'ont jamais cessé de diminuer d'année en année. Mais là, ce qu'on voit présentement, la situation actuelle, c'est que, évidemment, ça a baissé depuis quelques semaines, mais j'ai présentement 429 enfants et adolescents en attente d'une évaluation, en attente de voir qu'une intervenante, une professionnelle, puisse aller à son domicile pour voir si cet enfant-là ou ce jeune-là n'est pas en danger immédiat.
Madame Boudreau, quand je regarde ça, c'est un drame dans le tissu social du Québec. Ça n'a aucun espèce de bon sens qu'on en soit là. Comment on en arrive là? Est-ce que c'est son... Puis je ne cherche pas des coupables. J'essaie de trouver des solutions. Est-ce que ce sont les parents qui sont débordés, dépassés pour des raisons socio-économiques? Est-ce que c'est véritablement de l'incompétence parentale que cette négligence-là envers des enfants? Ça, c'est une chose. Puis il y a l'autre côté de la médaille aussi, où il y a des enfants qui, par un manque d'encadrement peut-être, sortent du chemin complètement et pognent le champ. Comment vous évaluez ça?
Écoutez, vous amenez plusieurs bons points. Moi, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'à l'heure actuelle, évidemment, on ne sait pas ce qui a provoqué la hausse de signalement. Par contre, c'est évident, si on regarde la situation économique, la situation sociale, le fait que des familles se retrouvent seules, qu'il n'y a peut-être pas beaucoup d'accès à des services de première ligne. Bref, il y a un paquet de facteurs qui pourraient faire en sorte que, effectivement, la situation des enfants et des jeunes se dégrade à la DPJ.
Manque de budget, manque de ressources, augmentation des cas, on le comprend, on vient de le dire.
Oui,
mais
oui.
On ne serait pas capable de répondre à ça avec les effectifs actuels ou les ressources actuelles.
Non. Non, là, je vous dirais que c'est vraiment pas une question de ressources financières. C'est vraiment que là, présentement, là, j'ai pas le chiffre exact devant moi. J'en suis désolée, je pourrais vous revenir. Mais ce que je peux vous dire, c'est que on est en grand besoin de recrutement de personnel au niveau de la DPJ. On fait vraiment là, tout ce qu'on peut pour inciter des jeunes ou autres intervenants à venir travailler avec nous. Mais vous savez que, évidemment, malgré le fait que c'est une super de belle profession que nos intervenants exercent à s'occuper de nos enfants les plus en détresse. Mais c'est évident, peut-être pas toujours attrayant pour des jeunes qui finissent de venir travailler à la DPJ parce que on le sait que eux-mêmes le savent d'ailleurs que c'est des situations qu'ils vont vivre au quotidien qui sont pas toujours évidentes, mais c'est pour ça, par contre, que nous, on a plusieurs programmes pour soutenir les jeunes intervenants.
Parce que la réalité, c'est plus qu'une job, c'est une vocation, là. Travailler.
Absolument.
Parce que, honnêtement, là, ça demande un peu plus que de dire « je travaille pour un revenu pour gagner ma vie ». Il y a un engagement professionnel qui dépasse bien d'autres engagements dans bien des métiers, là.
Oh, vous avez tout à fait raison. Puis, surtout, c'est que très souvent, on est loin de parler d'un horaire de travail de 9 à 5, on s'entend. Moi, j'ai vu des intervenants qui font des miracles jour après jour au-delà de leur horaire de travail. Par exemple, partir un samedi, aller faire une épicerie pour une jeune maman qui est en détresse et qui n'a pas reçu pour X raisons les sous qu'elle devait recevoir du papa. Ou encore, j'ai vu des intervenants un dimanche après-midi se mobiliser pour aller déménager une famille qui s'était faite expulser. Donc, c'est vraiment, vous avez tout à fait raison, là, un engagement là, à toute épreuve. Mais d'un autre côté, c'est tellement valorisant.
Je comprends bien quand on aime ce métier-là et qu'on y va, il faut qu'il y ait ce sens-là, justement. Mais, bon, il y a la délinquance. C'est la DPJ qui s'occupe de ça. La jeune délinquance.
Oui. Oui, sauf que là, moi, je ferais vraiment un gros bémol parce que on parle ici présentement, ce que je parle avec vous, c'est vraiment de la loi de la protection de la jeunesse.
Exact.
Et la délinquance, ça relève d'une autre loi.
D'accord. Mais la DPJ chapeaute ces deux réalités-là. Donc, je disais qu'il y a la délinquance, je la mets de côté à ce moment-ci.
Oui.
Parce
oui.
que, à mon point de vue, la problématique, c'est ce qui hypothèque justement l'avenir de ces jeunes-là. Et c'est ce qui peut-être peut les mener sous l'autre joug de l'autre loi, celui de la délinquance. Donc, il y a quelque chose là comme matière première sur laquelle il faut travailler pour éviter que c'est cette déchéance-là dans la vie. Et tout le monde ne part pas à go en même temps dans la course de la vie, on s'entend?
Vous avez tout à fait raison, M. Mongrain. Effectivement, ça peut arriver que des situations de négligence, de maltraitance à l'enfance peut amener des jeunes éventuellement à devenir délinquants, à commettre des délits. Surtout si ces jeunes-là ou enfants ne reçoivent pas des services au bon moment.
Et voilà. C'est ce qui est le péril présentement avec cette surcharge de cas qui sont des signalements.
C'est, absolument.
C'est le potentiel là, d'une déchéance pour bien des enfants, malgré que de magnifiques histoires là, de gens qui s'en sont très bien sortis. Je ne veux pas être négatif et je ne veux pas mettre de côté ces grands succès de gens qui ont réussi à se faire une belle vie malgré un chemin chaotique. Je veux revenir à une autre affaire. Il y a des décisions des tribunaux, des fois, qui m'ont surpris. J'en ai parlé ici récemment. Un enfant, maltraitance, etc., etc. Mais retourne chez vous. On va te laisser avec tes parents. Écoutez, là, un petit chien maltraité, on l'enlève et on l'envoie à SPCA. Mais un enfant, pour son équilibre, un tribunal décide de le retourner dans une place où il est battu, maltraité, à un couple déchiré qui se déchire, de la violence, de la drogue, etc., etc. Je comprends mal qu'au nom de l'intérêt de l'enfant, qu'on prenne le flambeau de l'intérêt de l'enfant et qu'on dise « il est mieux chez eux que de s'en aller en institution, il va avoir des services ». Comprenez-vous ça, vous? Êtes-vous choqué des fois par des décisions?
Oh, ben, écoutez, c'est sûr qu'il y a des fois qu'il y a des situations, évidemment, qui peuvent me choquer ou m'étonner. Mais moi, ce que je dis toujours, dans des cas particuliers comme ça, il y a tellement d'éléments et de faits qu'on ne sait pas, M. Mongrain, là, que c'est vraiment pas facile de se faire une tête, de dire, OK, est-ce que c'est bien ou pas que l'enfant retourne dans son milieu familial? Parce qu'il y a tellement de faits qu'on ne peut pas dévoiler, que le juge doit prendre en compte, que nous, on ne le sait pas, etc.
Mais que vous, vous savez à la DPJ, que le citoyen ne sait pas. Mais vous savez très bien si un enfant a été abusé, si la mère a participé aux marchandises sexuelles de son enfant. Vous savez tout ça, là.
Ben oui, c'est sûr que les intervenants, pas moi, là, je vous dis pas moi personnellement.
Je comprends. La DPJ.
Oui, mais et effectivement, les intervenants de la DPJ, eux le savent. Ceux qui s'occupent des familles, évidemment, sont parfaitement informés parce que c'est leur travail, c'est leur famille, ils s'impliquent auprès d'eux. Fait que les intervenants de la DPJ le savent.
Est-ce que... Ça, c'est dur, la question que je vous pose. Là. Je m'excuse, okay. Vous pouvez ne pas me répondre si vous voulez. Pas de problème. Okay. Moi, ça fait des années que je suis ça. J'ai même
Sais, on s'est rencontrés à l'époque de TQS.
Oui. Et également, j'ai déjà été poursuivi vers la DPJ pour avoir sauvé une petite fille. Parce que, malencontreusement, elle était sous instance judiciaire. Donc, on a réglé le dossier. La jeune fille a repris le bon chemin. La réalité, c'est que souvent, nous apparaît que l'intérêt de l'enfant est utilisé pour empêcher que des dossiers progressent. Puis c'est pas toujours dans l'intérêt de l'enfant de ne pas savoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça devient un genre de plaster sur une situation pour pas lever le couvert. Parce que vous avez pas de ressources suffisantes pour des problématiques plus importantes. C'est ça la réalité. Pas capable de rencontrer des... Puis c'est pas un blâme que je vous fais.
Non.
C'est pas un blâme que je vous fais. Je dis, quand tu as 450 quelques cas de signalement, ça veut dire qu'ils n'ont pas été enquêtés, ils ne sont pas solutionnés, l'enfant reste dans la même merde.
Oui, mais c'est pour ça, par contre, que je vous dirais, là, puis vous avez raison dans ce que vous dites, là, que moi, j'ai présentement, effectivement, on a des centaines d'enfants à Montréal qui attendent qu'on aille voir s'ils ont besoin d'aide immédiate. C'est ça qu'on fait présentement. On fait vraiment ce qu'on appelle une opération blitz dans un premier temps pour aller sur les lieux pour s'assurer que l'enfant n'est pas en danger immédiat. Possiblement que l'enfant va avoir besoin d'aide. Oui. Est-ce qu'on va pouvoir lui donner immédiatement? Peut-être pas. Mais par contre, les cas les plus graves que des enfants qui sont en grande détresse, que leur sécurité physique est en danger à ce moment-là, on va intervenir immédiatement.
Moi, j'ai de la misère avec les valeurs que l'on est en train d'avoir dans notre société. On fait des manifs pour les animaux maltraités, on fait des blitz pour aller chercher dans des fermes d'élevage, mais j'ai jamais vu une manif pour sauver les enfants du Québec qui sont aux prises avec des problèmes comme ceux-là, qui est une richesse première. Les sapins puis les épinettes, c'est vrai qu'il faut sauver ça puis préserver ça, les lacs aussi, mais la plus grande richesse naturelle qu'on a, c'est notre enfance pour l'avenir, puis on dirait qu'on n'a pas pris conscience de ça. C'est qui est le ministre de ça présentement, là? Monsieur Carman?
Oui. Par contre, je voudrais qu'il est vraiment, pour l'avoir rencontré à plusieurs reprises...
Ah, il est gentil. Il est bien fin.
Oui, mais il est sensible, très, très sensible à la situation des enfants de la DPJ. Ça, je peux vous l'assurer. Puis, vous avez tout à fait raison quand vous dites que des fois, on peut faire des manifs pour telle ou telle cause. Mais effectivement, moi, j'ai rarement vu des manifs se faire pour aller dans la rue pour défendre le droit à la protection des enfants, effectivement.
Ça n'a pas de bon sens.
Ça fait des années que moi, je le dis, puis qu'on le dit, la responsabilité des enfants, c'est une responsabilité collective, M. Mongrain. Ça ne relève pas seulement de la DPJ.
Jocelyne Boudreau, on pourrait parler de ça pendant des heures. Merci beaucoup, merci beaucoup de votre ouverture. Et saluer tous ceux et celles qui travaillent auprès de cette jeunesse en détresse. Et j'ose croire qu'on va y trouver des solutions. Merci beaucoup.
Merci à vous.